Alors, bon, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez le faire. C'est vrai que ça me permettrait. Oui.
Non, on va vous donner le micro.
Vous avez pu faire quelque chose?
Oui, alors bon, c'est vrai que c'est une thérapie qui est en cours, donc qui est tout à fait récente. Moi, sur les premiers entretiens, j'ai d'abord conseillé à la maman de ne pas insister pour, évidemment, de ne pas insister pour que l'enfant soit en contact avec d'autres enfants, puisqu'il s'agit du symptôme. Et en psychanalyse, on va dire que l'une des premières règles de rigueur est de ne pas s'attaquer aux symptômes. Donc déjà, on va mieux vaut le laisser faire comme c'est mieux pour lui, pour pas augmenter l'angoisse. Et surtout, j'ai suggéré à la maman d'expliquer à son fils ce qu'elle avait ressenti au moment de sa naissance avec la venue simultanée de ses deux bébés, chose qu'elle n'avait jamais faite, de lui expliquer pourquoi elle pouvait avoir été agacée à un moment donné par la présence d'autres enfants, pour que déjà il puisse faire le distinguo entre le ressenti de sa mère et le sien. Voilà. Quelqu'un a envie d'intervenir ou de témoigner de quelque chose qui puisse ressembler à cette histoire et... Non? Bon, je vais peut-être continuer sur un autre exemple. Je trouve que, bon, enfin, moi, en tant que psychanalyste pour enfants, j'assiste tous les jours à ce genre de témoignages. Là, il s'agit d'un garçon plus grand, d'un garçon de 9 ans, alors accompagné par la mère uniquement. Lorsque la mère est arrivée, elle m'a dit, voilà, je vous amène mon fils parce qu'à l'école, les enseignants sont pas contents. Ils trouvent qu'il est trop turbulent, qu'il s'agite trop, qu'il tourne dans tous les sens et qu'il est dissipé, distrait. Bien. Alors la maman explique un petit peu leur histoire de famille. Et bon, juste avant, je pose la question à cet enfant. Je lui demande, et toi, pourquoi, qu'est-ce que tu attends en venant ici? Qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe pour toi? Et il me dit, j'aimerais ne plus bouger. Bien. Là-dessus, sa maman donc continue à expliquer l'histoire de famille. Et entre autres, il a été expliqué que le papa avait un frère jumeau mort à l'âge de 5-6 mois approximativement, et que de plus, ce garçon en analyse, est élevé essentiellement par ses grands-parents paternels. Donc il est bien évident que dans une histoire comme celle-là, on comprend tout de suite que le petit-fils prend quelque part la place de l'enfant qui a disparu, de ce frère jumeau mort, qui forcément a été idéalisé puisque disparu, et qu'en fait, ce petit garçon est en proie à une grande angoisse de mort, et que pour se prouver qu'il est bien en vie, bah, il bouge à longueur de journée, et que là, lorsqu'il est venu en analyse pour, on va dire, pour satisfaire quelque part à la jouissance des parents, il a dit, ben, je voudrais ne plus bouger. C'est sûr qu'en ne bougeant plus, c'est un état de, comme lorsqu'on est mort, c'est le meilleur moyen pour être idéalisé, donc pour être celui qui a toutes les qualités et celui à qui on ne fait plus aucun reproche. Donc là encore, on récupère une histoire de famille. Et surtout une histoire de au niveau d'une fratrie. On peut comme ça d'ailleurs non seulement c'est sur des lignées actuelles, là on voit que c'est sur une génération précédente, ça pourrait même être sur encore des arrière-grands-parents. Je lisais récemment que, enfin, dans un de ses ouvrages, Françoise Dolto préciser qu'à son avis, pour bien comprendre le symptôme d'un enfant, il faudrait systématiquement repartir 3 générations en arrière. Et là, on voit effectivement, sur cet exemple-là, on était sur les grands-parents, le précédent sur les parents. Voilà, si vous avez des interventions à faire.
Oui, bonjour. Votre intervention me suscite beaucoup de questions, effectivement, des questionnements personnels et professionnels. Mais effectivement, ce que ça soulève aussi, c'est toute la culpabilité, j'imagine, que ces parents ont. Enfin, peut-être qu'ils viennent aussi témoigner de cette culpabilité qu'ils ont à avoir un enfant comme ça qui peut exprimer un symptôme. Alors le sien, celui de la famille, celui de la transgénération, on entend. Alors ce n'est pas forcément une question que j'ai, c'est juste un postulat que je fais. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de cette culpabilité en tant que mère, en tant que sœur, grand-mère, grand-père, enfin peu importe. En tant que parent, en tant que... on est tous liés, je pense, à ce genre d'histoire. Et l'enfant peut nous amener, alors avec différents symptômes, à réfléchir sur ce que l'on est, sur ce que nos parents, nos grands-parents ont été. En même temps, on n'a pas toujours une réponse claire à donner. Enfin, je ne sais pas.
Oui. Alors, c'est vrai que cette notion de culpabilité est importante. J'ai eu récemment comme ça une dame qui est venue avec sa petite fille où justement cette notion de culpabilité d'ailleurs a été très, très bien gérée. La maman est arrivée avec sa petite fille, une petite fille de 5 ans qui était née avec une malformation cardiaque importante. Donc qui a été opérée alors qu'elle avait à peine quelques semaines. Soucieuse, on va dire, du bien-être psychique de sa fille. Donc la maman avait 2 ans auparavant consulté déjà une psychanalyste pour lui demander un bilan. Le bilan s'était avéré correct. Bon, il y avait eu quelques précisions à apporter vis-à-vis de la petite fille pour qu'elle comprenne mieux ce qui lui était arrivé. Et là, donc 2 ans après, la maman revient chez moi avec sa petite fille à nouveau pour demander un bilan, toujours dans le souci que sa fille aille bien. Et bon, moi j'ai trouvé la petite fille tout à fait bien, compte tenu malgré tout des épreuves qu'elle avait traversées. Et dans le discours inconscient est ressorti le fait qu'effectivement, comme vous le dites, tout le poids de la culpabilité reposait sur sa mère et qu'elle était là davantage pour elle que pour sa petite fille. Et je le lui ai dit. Et c'est quelque chose qui a été très, très bien reçu. C'est d'ailleurs, ça a été un moment très émouvant durant lequel la maman s'est mise à pleurer et à remercier sa petite fille de 5 ans, la remercier de lui avoir permis d'envisager une démarche de travail sur elle-même. Et c'est vrai que c'est là où cette notion de culpabilité, c'est peut-être là où c'est ce jour-là où je l'ai véritablement ressenti. Mais c'est vrai aussi, c'est très rare que ça se passe comme ça, parce qu'en règle générale, les parents préfèrent que ce soit l'enfant qui fasse un peu le travail à leur place. Ils la ressentent pas tellement, moi, je trouve, la culpabilité au conscient, tout au moins. Rares sont ceux qui réalisent véritablement. Ça reste inconscient, puisque s'ils s'en rendaient compte à sa juste valeur, ils entameraient directement un travail sur eux. Ils ne passeraient pas par l'enfant comme ils le font en règle générale. Là, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à votre question.
Je pense, oui.
Oui.
Que pouvez-vous me dire de la pratique de la psychanalyse ? Que pouvez-vous me dire de la pratique de la psychanalyse des adolescents ? Est-ce plus complexe ?
Alors déjà, moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la pratique avec les adolescents. Peut-être même que je la préfère à celle avec les plus petits. Bon, déjà pour une raison pratique, c'est vrai que l'adolescent s'exprime plus. Chez l'enfant, il faut comprendre de façon un petit peu beaucoup plus implicite. Moi, je trouve que c'est très intéressant, d'autant qu'ils ont une ouverture d'esprit qui est immense. Ils sont capacitaires à comprendre très vite qu'est-ce qu'un travail sur eux-mêmes, qu'est-ce que l'inconscient. Et puis, bon, on est sur des inconscients qui sont tout jeunes, avec effectivement une histoire qui est plus récente, hein, de par leur âge, avec des beaucoup moins de choses engrammées. Donc, il y a des résultats plus rapides. Alors, plus rapides qu'avec l'adulte, ça c'est sûr. Et alors, plus rapides qu'avec l'enfant tout jeune, mais pas pour les mêmes raisons. Avec le tout jeune enfant, Alors, les premiers résultats, on les a en règle générale assez rapidement, mais très vite, on se trouve confronté à la résistance des parents. Et ça, c'est une grosse problématique, c'est-à-dire que dès que le parent, pardon, va commencer à réaliser que son enfant va mieux, c'est là où il y a toutes sortes de rationalisations visant à diluer, voire même interrompre la cure qui vont se mettre en place. Parce qu'il est bien évident que dès l'instant où l'enfant va se détacher du symptôme familial, c'est synonyme pour le parent d'un détachement qui est très difficile à gérer, surtout pour la mère. Alors que l'adolescent, de par le fait qu'il est plus grand, va pouvoir s'exprimer. Et même si à certains moments, ses parents, la mère, le père ou d'autres membres de la famille manifestent des oppositions, il va pouvoir, donner son point de vue. Il va dire qu'il a envie de continuer ou qu'il n'en a pas envie, mais il va pouvoir dire quelque chose, ce qui n'est pas le cas d'un tout petit enfant. Voilà. Il y a une dame là-bas.
Je signale au passage que Lionel Brook en rajoute quelques poignées.
Oui.